Cette semaine à Vidéo Terreur, le cinéma Grindhouse, partie 1.
Vidéo Terreur est un podcast sur les films d'horreur avec deux passionnés, Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. Cet épisode est produit par la télé du Haut-du-Lac.
Bonjour, cette semaine à Vidéo Terreur, on va parler de Grindhouse. Et, je vous avertis, cette émission sera en deux parties, donc manquez-nous pas non plus la semaine prochaine. Et pour nous éclairer sur qu'est-ce que le Grindhouse et les films qui y sont associés, avec moi, Jimmy Francoeur, fan fini de films d'horreur et autres objets ludiques. Bonjour Jimmy, ça va bien?
Salut Pierre, oui, ça va bien, toi?
Oui, ça va. Grindhouse, c'est quoi Grindhouse? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tout le monde sait c'est quoi, mais personne n'utilise peut-être le bon terme.
Oui, on pourrait dire ça. En fait, là, ça réfère à deux choses. On pourrait dire ça une catégorie de film, puis aussi un endroit. Une autre appellation, souvent du Grindhouse, on parlait aussi de films d'exploitation.
OK.
Donc, qu'est-ce qu'on parle essentiellement lorsqu'on parle de ces films-là? C'est des films souvent qui sont du cinéma indépendant.
OK.
Qui sont beaucoup, je dirais, qui vont beaucoup exploiter justement des thèmes. Par exemple, la violence, l'horreur, des thèmes choquants. Ou qui vont capitaliser aussi sur des succès. Là. Par exemple, si on prend un film comme Murder Rock, là, qui a été réalisé par Lucio Fulci, qui est, un amalgame de Flashdance avec un giallo, un slasher. On fait ça, puis on envoie ça dans les salles. Donc, le Grindhouse, ça se relève davantage, comme je dis, du cinéma d'exploitation, du cinéma indépendant. On ne peut pas nécessairement parler de Grindhouse avec des films de grands studios à grand budget, là. Mais ça va nous amener quand même à parler de Quentin Tarantino plus tard dans l'émission. Mais on est vraiment dans le domaine du cinéma indépendant. Ça, c'est un élément. Un autre élément aussi, c'est quand on parle souvent de ce qu'on appelait des Grindhouse Theater, qui ne s'affichaient pas comme tel. Là. Ça, je dirais, c'est une appellation qui est souvent venue après coup, mais c'était souvent des cinémas qui étaient souvent dans le downtown, dans les quartiers un peu moins, mal famés, où on passait, entre autres, beaucoup de films en série. Là. Si on regarde, les classiques se retrouvent souvent là, à la 42e avenue à New York,
oui.
Dans les années 70-80, où on a des cinémas qui passent là, ce genre de films-là, des films d'action violents, des films de kung-fu, des westerns, des films d'horreur.
Les gars comme Lloyd Kaufman ont fait fortune parce qu'un film comme Toxic le Ravageur est passé à tous les soirs pendant un an dans ces salles de cinéma-là.
Exactement. T'sais, ce qu'on retrouvait dans les cinémas de Grindhouse, c'était des films justement comme Toxic ferait partie de ça exactement, mais qu'on ne retrouverait pas dans des cinémas, je dirais, pour tous, familiales, où on est, je dirais, le mandat est presque de passer les blockbusters là, en série. Donc, le Grindhouse, comme je dis, est lié aussi à des salles de cinéma qui passaient ce genre de films-là, puis aussi, au genre de films qu'on retrouvait dans ces salles-là. On peut faire aussi un parallèle, je dirais, avec les drive-in movies, les films qui passaient dans les cinéparks. Parce que, je dirais, on est à peu près dans le même créneau. Là. Le mandat des cinéparks, dans les années 60-70, et pas nécessairement de passer des grands films de répertoire qui font réfléchir. On est dans les films d'action, des films d'horreur. On fait des programmes doubles, même des fois des programmes triples. Donc, on est à peu près dans le même esprit. Là. Puis on pourrait se poser la question aussi, Grindhouse, là, ça vient d'où ce terme-là? Il y avait deux théories. Une des théories que ça venait de Grind and Bump, ou Bump and Grind, qui était un style de burlesque. Qui était à l'époque un peu plus osé. On a longtemps pensé que ça venait de ça, mais en fait, ça viendrait de Grind Policy, qui est une pratique du cinéma où on va, je dirais, viser plutôt la quantité que la qualité. Puis on reconnaît justement là, le genre de cinéma où on passait des programmes doubles ou triples. L'idée, c'était pas d'avoir trois films de Kubrick d'affilée. Ouais. C'était d'avoir des films qui aussi allaient aller chercher, je dirais, la quantité. Autre chose aussi, je dirais qu'on n'a pas encore nommé, mais dans le cinéma d'exploitation, le Grindhouse, je reviens avec l'idée que c'est du cinéma indépendant, donc qui dit indépendant dit moins de budget.
Moins de budget, moins de contraintes.
Exactement. Ben, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on en arrivait avec le Grindhouse ou le cinéma d'exploitation, c'est de se dire, écoute, à partir du moment où je n'ai pas les fonds pour arriver à compétitionner avec un grand studio, je vais peut-être aller où eux autres n'osent pas aller, je vais en montrer plus. Et on est vraiment là-dedans. Là. Le cinéma d'exploitation, en fait, va viser, je dirais, ultimement compétitionner les grands studios sur l'élément, je dirais, justement, où les studios n'osent pas aller. Là.
Tu parlais tantôt de Kung Fu, tu parlais de Toxic. On a l'impression qu'on parle un peu de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un grindhouse? Est-ce qu'on peut... Il y a plusieurs genres, en fait, qui est associé au grindhouse.
Oui, bien effectivement. T'sais, on revient à l'idée là, que dans ces cinémas-là, on mettait des films, bon, souvent... qu'on n'allait pas retrouver dans les cinémas là, de grande envergure. On a là-dedans bon, les films d'horreur, évidemment, les films d'action, mais plutôt violents. Là. C'est, par exemple, un titre qui me viendra en tête, quelque chose comme Missing in Action avec Chuck Norris. Ouais. On était dans ce de genre de film-là, puis il y en a d'autres aussi qu'on parlera tout à l'heure. Des westerns italiens, les spaghetti western spaghetti. On a les films de Kung Fu aussi d'Hong Kong, des films japonais aussi là, d'arts martiaux. Et on est dans ce genre de film-là. Puis en fait, ce qui est intéressant avec les grindhouse, ce genre de cinéma-là, c'était qu'on pouvait voir aussi du cinéma qui était autre que du cinéma américain.
Oui,
on pouvait voir beaucoup de films italiens, beaucoup de films européens, du cinéma asiatique, qu'on ne retrouvait pas non plus là, dans les cinémas, appelons ça classiques. Puis c'était quand même pas non plus du cinéma de répertoire. Donc, on est vraiment dans une frange, je dirais, où, appelons ça le peuple peut se retrouver à écouter des films qui ont le goût de voir puis qui sont sans prétention. Et avec l'idée, ça coûte pas cher, on va en avoir pour notre argent.
Oui, puis on voulait dépasser des limites. On est allé dans des zones un peu tordues. C'est là aussi on a vu, je pense, l'arrivée de des trucs plus gore, là, où on voit beaucoup. C'est pas tellement épeurant, c'est écœurant.
Mm-hmm. Oui, on est là-dedans aussi. Là. Donc, ce style de cinéma-là, comme je disais, amenait aussi à vouloir compétitionner d'une certaine façon. Parce que en montrer beaucoup, choquer, c'était payant aussi.
Ouais. Puis eux, pourquoi ils n'étaient pas censurés? On parlait dans notre émission sur la possession des démons qu'il y avait beaucoup de censure. Puis eux, on dirait qu'ils n'ont pas été affectés par la censure.
Oui, bien à partir des années 60-70, en fait, là, justement, là, les cinémas indépendants, puis le cinéma indépendant va avoir comme atout, je dirais justement, d'intéresser peu les critiques de cinéma. Les critiques de cinéma ne s'intéressent pas vraiment à ce genre de film-là. Ils n'ont pas nécessairement... Roger Ebert ne va pas nécessairement voir I Spit on Your Grave l'après-midi à la 42e avenue à New York. Donc, les critiques s'y intéressent peu. Les revues spécialisées de cinéma s'y intéressent pas du tout. On en parle peu dans les
médias. Pourtant, il y a des grands classiques.
Tout à fait. Mais ça jouait d'une certaine façon leur avantage. À partir du moment où on n'en parle pas dans les journaux, ben, ça ne crée pas de scandale. On montrait des choses, encore une fois, qui passaient un peu en dessous du radar. Par contre, si on en parlait, par exemple, je vais parler tout à l'heure de Blood Feast, un film comme Blood Feast, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une injonction qui a été tentée là, dans la ville de Dallas pour interdire le visionnement du film. Qu'est-ce qui s'est produit? Ben, c'est devenu un film qui a roulé pendant des mois et des mois dans les cinéparks.
Parce que tout le monde voulait le voir.
Exactement. Donc, d'une certaine façon, je dirais, ce type de cinéma-là, si on y passait sous le radar... Parfait. Puis s'il y avait, appelons ça, malheur, bonheur d'être opéré, ben si, ça créait une réaction forte, ben c'était d'autant plus payant. Non?
Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui sont associés particulièrement juste à ce genre-là? Moi, je pense à Lloyd Kaufman, mais c'est pas un grand réalisateur, là, on s'entend.
Non, mais Lloyd Kaufman, on dirait dans le cinéma d'horreur indépendant, c'est un nom aussi, là, je pense, un incontournable.
Peut-être Toxic le Ravageur, c'est ça. On jouait à Toxic le Ravageur quand j'étais petit. Là.
Tout qu'un loisir. Ben, on peut parler aussi, justement, je parlais de Blood Feast avec Herschel Gordon Lewis, qui est un probablement des pionniers de ce genre de film-là. Parce que, tu sais, on parle de Grindhouse, on peut faire aussi un parallèle, par exemple, avec les fêtes foraines. Tu sais, peut-être nous, au Québec, c'est moins comme ça, mais aux États-Unis, entre autres, on avait beaucoup des fois des chapiteaux avec « Venez voir l'étrange monstre à deux têtes ».
Les cirques de freaks, là.
Bon, tu sais, ou des trucs du genre, puis on promettait beaucoup. Puis bon, souvent, derrière le rideau, c'était beaucoup décevant, mais on avait payé. Donc, on est un peu là-dedans aussi. Là. Par exemple, bon, les affiches là, de Grindhouse, c'était souvent des collages de deux, trois films avec des slogans du genre une incroyable orgie de terreur. Fait que les gens, ça créait beaucoup d'attente. Sauf qu'avant 1963, là, avec le film Blood Feast, essentiellement, on en promet beaucoup et on en montre peu. Je pense que le génie d'Herschel Gordon Lewis, ça n'a pas été nécessairement au niveau de la réalisation. C'est un réalisateur, je dirais, sur le plan technique qui est moyen et faible. Mais c'est le premier, d'une certaine façon, à dire ben voici, c'est festin sanglant, voici ce qu'on retrouve, puis vous allez le voir pour vrai. Ça a été vraiment ça, je pense, le côté marquant de sa carrière. Puis en fait, Herschel Gordon Lewis a fait quelques films, là, je dirais, bon, Blood Feast, 2000 Maniacs, qui est probablement son meilleur film, à mon avis. Là. Puis après, à partir du moment où Hollywood a commencé à créer aussi, disons, des films un peu plus, appelons ça, osés, Il s'est recyclé en marketing. Il a écrit 32 livres sur le marketing, puis il s'est recyclé en publicité. Bon, il est revenu à la fin de sa vie là, faire un film ou deux. Là. Mais il a lancé quand même l'idée qu'il y avait de l'argent à faire parce que Blood Feast, en 63, a coûté 24 000$. Puis il a rapporté des millions. Encore une fois, l'idée que si vous osez aller plus loin que le concurrent, c'est payant. On est là-dedans. Là. Donc ça, je pense que c'est un réalisateur, je pense qu'il faut mettre de l'avant. Il y a aussi, Russ Meyer, qu'on connaît peut-être moins, là, qui est moins associé, qui n'est pas associé à l'horreur, en fait, mais au film d'action un peu plus, je dirais, violent, qui a beaucoup influencé, entre autres, par exemple, le film là, Dead Proof de Quentin Tarantino.
Okay.
La particularité, en fait, là, de Russ Meyer, c'est de faire des films d'action indépendants, mais aussi, je dirais, il est connu aussi pour ses actrices. C'était beaucoup des... En fait, il y avait beaucoup de personnages principaux qui étaient des femmes dans les films d'action, ce qui était déjà quand même assez rare. L'autre particularité, c'est que c'est toutes des actrices, je dirais, à la forte poitrine. Donc, on mélangeait, je dirais, aussi action, érotisme, puis des personnages féminins qui étaient des femmes d'action. Là. Fait que,
ouais. T'as-tu des exemples de films qu'il
y a fait? Ben, entre autres, il y a Faster Pussycat, Kill Kill... Ultra Vixen, qui sont deux films. Là,
juste les noms.
Mais en fait, si vous regardez, mettons, comme je disais, Dead Proof, puis Faster Pussycat, Kill Kill, on est dans le même genre. Là, t'sais, par exemple, bon, ce film-là, les personnages principaux sont des femmes, il y a une cascadeuse à travers ça, puis un peu des femmes d'action. On est là-dedans. Là. Il n'y a pas nécessairement de réalisateurs qui se sont campés à faire uniquement ça, à part, je dirais, par nécessité économique. Là.
Si on parle d'horreur en tant que telle, l'horreur va être associée à quoi? À différents aspects, en fait, de notre humanité? Parce que ça va dans tous les sens, là.
Ça va dans tous les sens. Ben, en fait, il n'y a pas nécessairement un style qui va définir si on parle d'exploitation ou de grindhouse. Tu sais, par exemple, il y a des cinéastes comme, mettons, Wes Craven, La dernière maison sur la gauche. À l'époque où c'est tourné, on est clairement là-dedans. On est dans le cinéma d'exploitation.
Ouais.
Clairement. Puis, par exemple, à partir du moment où, bon, je dirais, il est passé avec des plus grands studios comme la New Line, quand on est rendu à Freddy, on n'est clairement plus là, dans le grindhouse, dans le cinéma d'exploitation. Fait qu'il y a eu beaucoup de réalisateurs qui ont eu, je dirais, une incursion dans le cinéma indépendant pour finalement s'en aller.
C'était une école à quelque part. Donc, eux, ils apprenaient, ils avaient la chance de réaliser un premier film, de démontrer ce qu'ils étaient capables de faire. Puis, parce que Dernière Maison sur la gauche, on voit rien, mais tout est dans la suggestion, mais ça fonctionne. Je veux dire, tu sors de là, tu files pas. Là, c'est Exploitation, on est plus là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est plus des films axés peut-être sur le viol. Ou
ben, il peut y avoir de ça, effectivement, comme ces thèmes-là. Mais ça revient un peu à l'idée de départ, tu sais, qu'on disait, on parlait de thèmes que, appelons ça, le concurrent Hollywood n'osait pas parler.
Ouais.
Donc, il y avait toujours un peu la dynamique à la fois repoussant, mais intriguant. Tu sais, on jouait tout le temps là-dessus. T'sais, on peut parler aussi, mettons, de George Romero, qui a fait du cinéma indépendant, je dirais, presque toute sa vie, à quelques exceptions près. Par exemple, Night of the Living Dead, on est là-dedans. Dawn of the Dead aussi. C'est des films qui roulaient dans des salles, encore une fois, là, en boucle, mais qu'on ne retrouvait pas dans un Cinéplex ou Famous Player ou autre.
Je ferai un parallèle avec le monde d'aujourd'hui, parce que souvent, les gens vont penser que les films d'horreur, c'est ce qu'on va voir, entre autres, là, au cinéma. Là, mais en fait, c'est une... mineur, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de conventions au niveau de l'horreur. Il y a beaucoup de films, de petits films, de courts-métrages, de films indépendants qui se font. Mmh. Et c'est là, souvent, où on va aller très loin, en fait, là, sur certaines thématiques. Là.
Tout à fait, oui, tu as tout à fait raison. T'sais, la seule différence maintenant, c'est que je dirais que le canal de transmission est relativement unifié. Par exemple, si vous allez sur Netflix ou Shudder, vous allez avoir à la fois côte à côte du cinéma indépendant puis du cinéma à grand budget. Alors que, je dirais, bon, dans les années 60, 70, même 80, je dirais, l'endroit où vous allez écouter votre film va déterminer aussi le type de film que vous allez écouter. Si vous allez dans une salle, comme je dirais, dans le downtown, vous n'allez probablement pas avoir accès aux blockbusters du moment, ouais, aux grands films d'horreur à gros budget. Vous allez avoir accès à des films, encore une fois, comme I Spit on Your Grave ou Toxic le Ravageur. Ouais. Donc, tu sais, il y a une notion maintenant, je dirais, la frontière entre... l'endroit et le type de film est peut-être moins flagrante parce qu'encore une fois, avec des types comme Netflix, Shudder et toutes les... Ben, on a à peu près tout sous un même toit, si on peut dire ça.
Est-ce que... parce qu'on en connaît beaucoup de ces films-là, puis tu sais, on voit, là, ils n'ont pas passé, ils n'ont pas gagné de prix, etc. Est-ce que le club vidéo a amené à faire qu'à un moment donné, il fallait produire des films pour mettre ses tablettes Puis, on a permis à des gens de distribuer. Au niveau de la distribution, c'était plus facile d'avoir accès à ces films-là. Tu sais, aujourd'hui, tu parles des plateformes numériques, mais quand je pense aux années 80, je disais, tout le monde connaissait Toxic le Ravageur, mais il passait nulle part, même dans aucun cinéma au Québec. Pourquoi? Parce qu'on était capable d'aller le louer au club vidéo. Ça peut-tu avoir un impact?
Oui, oui, bien, tout à fait. Tu sais, puis je dirais, tu touches un peu la même problématique. Tu dis, à partir du moment où on a eu la bonne vieille époque de la cassette vidéo, bien, pour alimenter les clubs, ça prenait des films. Puis pour alimenter les. Encore une fois, le cinéma américain lui-même n'était pas capable de produire autant de films que la demande. On avait aussi accès à du film européen, du film italien. Puis ces films-là, ou du film indépendant, se ramassaient sur les tablettes, ou encore une fois, comme je disais tantôt, dans des salles de cinéma indépendantes ou dans des cinéparcs. Ouais. Parce qu'encore une fois, c'est par exemple, prenons au cinéparc, si vous aviez le choix de présenter un programme triple pour le même prix qu'un blockbuster, ben souvent, il y a des salles ou des cinéparcs qui faisaient le choix de la quantité. Là. On vient au Grand Policy, là.
On va parler d'un des sous-genres. Là. Il y a plein de sous-genres. Là. On va commencer par la sexploitation parce qu'on en a parlé, entre autres, avec La dernière maison sur la gauche. Tu as parlé d'I Spit on Your Grave aussi, qui est des films atroces à regarder dans le sens où tu ne passes à rien, mais tu files mal parce qu'on met en scène des viols. Là. C'est pas j'ai un peu de misère avec moi avec ce type-là. Là.
Je vais t'avouer, moi aussi. En fait, je l'avais presque occulté là, de l'émission, en fait. Oui, tu sais, on a eu, une tendance pendant un certain temps, là, encore une fois, là, probablement par souci de choquer puis en même temps de créer une curiosité. Il y en a eu plusieurs, là. La dernière maison sur la gauche, j'en ai un exemple.
Lui qui est connu surtout parce que c'était le premier film de Wes Craven qui nous a donné Freddy. Là.
Ce courant-là fait partie exactement, puis je dirais, va amener aussi une certaine époque, là, à partir des années 70, à l'avenue même du cinéma pornographique, là.
Oui, oui, la limite, elle est mince. Là.
Tout à fait. Là. Fait que ça, c'est un courant, effectivement, qu'on avait, que les salles, encore une fois, vont choisir d'exploiter ou pas. Tu sais, comme je parlais de cinéma porno, il y a des salles qui sont devenues juste des salles à ça, mais à un moment donné, tu sais, tous les genres se côtoient, là, parce que justement, comme je dis, dans les Grand House Theater, tu sais, l'heure du jour aussi ou l'heure du soir va influencer importe, aussi hein. Le genre qu'on va avoir. Là.
Qu'on va retrouver dans ces endroits-là.
Tout à fait.
C'est triste, c'est intéressant cette idée-là d'avoir des... Ben, on le retrouve encore, mais des cinémas qui vont distribuer du cinéma indépendant, maintenant, on va plus voir des films d'auteur ou du cinéma. Tu sais, tandis qu'à l'époque, on voyait... Il y avait aussi tout ce pan-là du cinéma qu'on... C'est plus difficile d'avoir accès aujourd'hui, j'ai l'impression.
Moi, je trouve ça aussi, je dirais, triste d'une certaine façon, parce que maintenant, on a l'idée que on va au cinéma voir un film qui vient de sortir. Il faut qu'il soit récent. Puis souvent, je me dis, par exemple, moi, là, si on me présentait Alien ou bien Texas Chainsaw Massacre, l'original au cinéma, j'irais demain matin. Là.
Ouais.
Mais encore une fois, on a comme perdu l'idée qu'un film peut être présenté. En fait, il n'y a rien qui dit qu'un film de 1978 ne peut pas être présenté aujourd'hui. Mais dans ces types de cinéma-là, je dirais, la notion de nouveauté était moins présente. L'idée, c'était... Ben, un peu comme la télé, OK, aujourd'hui, c'est ça qui passe, puis c'est ça qu'on va aller écouter.
Ouais, ouais.
Puis même au niveau des genres, je ne sais pas si tu te rappelles, bon, on a à peu près à la même âge. T'sais. Quand on était plus jeune, la diversité de films était plus grande. Par exemple, on pouvait l'après-midi, bon, ceux qui se souviendront de Ciné Quiz, avoir des films comme Ultraman avec du film du cinéma italien, des films d'Hong Kong. Les Bud Spencer, qui sont des films italiens. On avait une diversité beaucoup plus grande que du simple, je dirais, cinéma presque.
Cinéma français, on allait dans du Pierre Richard. On avait une diversité qui est des fois peut-être... Ouais, c'est l'impérialisme culturel hein, qu'on voit beaucoup avec l'arrivée de Netflix. Là, on est prisonniers. Je pense que le Québec, on est des bons producteurs en fait de cinéma et de télé. Là, ça nous... Mais on ne va pas nécessairement beaucoup dans ces genres-là.
Tout à fait. Mais tu sais, si on regarde le cinéma Grindhouse à cette époque-là ou ces salles-là, comme étant aussi un endroit, comme je disais tout à l'heure, où on avait accès à d'autres choses que du cinéma américain. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi parce que, tu sais, on traduisait des films d'Hong Kong pour aller passer dans ces salles-là, mais outre ça, on n'y avait pas accès, là. Fait que ça donnait aussi, je dirais, une palette beaucoup plus large, un éventail beaucoup plus large de films qu'on aurait eu normalement.
Oui, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est une belle école. Ben, on va arrêter là pour la première émission, mais on n'a pas terminé parce qu'on va parler encore de Western Spaghetti, de films de Kung Fu, de Blaxploitation. Il y en a énormément à venir. Ne nous manquez pas la semaine prochaine pour Vidéo Terreur. On continue de parler Grindhouse. Deuxième partie la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bonne semaine.
Vidéo Terreur est une réalisation de Jean-François Bourbeau, animée par Pierre Turcotte et Jimmy Franqueur. La captation vidéo et sonore a été réalisée par Luc Paul et Jean-François Bourbeau. L'ambiance sonore est une création de Jean-François Bourbeau. Coordination Andréane Bouchard. Pour nous rejoindre, vidéoterreur@hotmail.com.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.